Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois au micro. Né en Belgique, ordonné prêtre en 1995 au sein de la Société des missionnaires des Saints Apôtres, il est le premier membre de cette communauté, présente dans une dizaine de pays, à être nommé évêque. En juin 2017, en effet, le pape François lui confie un diocèse qui compte 82 paroisses et missions et devient ainsi le 12e évêque de ce diocèse, celui de Saint-Hyacinthe, succédant à Mgr François Lapierre. Avec une très grande joie, nous recevons Mgr Christian Rodembourg, nouvel évêque de Saint-Hyacinthe. Bonjour.
Bonjour.
J'imagine que le 27 juin 2017, pour vous, c'est une date mémorable.
Je vous dirais que la première date, c'est d'abord le 24 juin.
Ah oui?
À la Saint-Jean-Baptiste, quand j'ai eu l'appel du nonce, où il m'informait de ma possible nomination, à la condition que j'accepte évidemment de rendre ce service.
Est-ce que c'était une surprise?
Oui, c'était pas tout à fait dans les plans d'une vie d'un missionnaire des Saints Apôtres. Oui, c'était une grosse surprise. Et en même temps... Après ça, une grande joie aussi, quand, avec discernement aussi, j'ai donné ma réponse positive, comme vous pouvez le constater.
Oui.
Alors oui, après ça, c'est sûr que les jours suivants, ça a été quelque chose d'enchaînement, là, parce qu'il fallait écrire la lettre d'acceptation ou pas, puis après ça, il fallait aussi attendre l'annonce officielle qui venait finalement à la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul,
ah bon?
Le 29 juin. Alors, c'était...
Je disais le 27, parce que le 27, en fait, c'était l'acceptation, je présume?
Ben, j'ai donné ma réponse le 26.
26.
Le 26, ouais, voilà.
Et j'imagine que quand on reçoit une telle demande de service, parce que c'est une demande de service que vous adressez...
Absolument, un service, c'est, j'allais dire, surtout maintenant que je suis dans la fin de la première année déjà, et le début de la deuxième, c'est comme un don total. C'est être disponible. Moi, ça me plaît. Parce qu'être prêtre, être diacre, être évêque, c'est être en service de la communauté. Et comme d'ailleurs tous les laïcs engagés en Église, qui donnent du bénévolat ou qui sont des agents de pastoral, c'est hommes et femmes en service.
C'est curieux ce que vous venez de dire, parce que vous m'avez déjà mentionné, en parlant de service, que dans l'acte de constitution des missionnaires, des Saints Apôtres, ce qui vous a beaucoup interpellé, c'était cette question d'être chacun missionnaire de...
Oui, d'être en service selon les dons et les charismes, et d'où ce qui est une belle chose du fondateur, le Père Ménard, c'est d'avoir pensé justement à l'accompagnement, au discernement des vocations, et spécifiquement aussi des agents, j'allais dire, ce qu'on appelle aujourd'hui dans le langage de maintenant, les agents et agentes de pastoral, mais en réalité, c'était, voilà, comme dit le texte exactement, le but de promouvoir, former, accompagner des jeunes et des adultes dans leur vocation au ministère presbytéral, mais aux autres ministères dans l'Église.
Et ça, ça vous a interpellé?
À moi, ça m'a interpellé beaucoup, parce que je me suis dit, waouh, ça vaut la peine de donner de son énergie, de ses talents à cette communauté qui a ce souci de l'accompagnement, finalement, et de la présence au monde et auprès du peuple de Dieu, particulièrement dans ce domaine-là, qui est assez spécifique quand même. Hein.
Ce que j'allais dire précédemment, c'est que vous deviez probablement sentir quand même tout de suite l'énorme responsabilité que vous auriez à assumer en devenant le nouvel évêque de Saint-Hyacinthe.
Alors ça, c'est sûr que c'est une prise de conscience qui se fait vite, parce que, évidemment, tout d'un coup, on se dit, oups, je quitte d'autres responsabilités du jour au lendemain, quasi, on va dire, à quelques semaines près, pour entrer dans un monde un peu inconnu quand, tout de même.
Tout à fait.
Hein, je change de diocèse, je connaissais un petit peu l'un ou l'autre point focus comme ça, comme les moines de Rougemont que j'aime énormément, ou je connaissais un peu le séminaire de Saint-Hyacinthe parce que j'animais des week-ends à Bourreux pendant plusieurs années pour les couples. Bon, mais à part ça, je n'avais pas une grande connaissance du milieu. Donc c'est un sacré défi aussi qui se présentait à moi. Mais moi, je trouvais ça un heureux défi, malgré que vous avez raison de dire que ça pouvait me paraître très exigeant au départ. Et ça l'est, et c'est exigeant. Mais c'est une belle exigence.
Vous nous proposez aussi de la belle musique tout au long de cette émission. Pour débuter, on va entendre le prélude du Te Deum Laudamus de Marc-Antoine Charpentier que vous nous avez proposé, qui est interprété ici par la Chorale des Jeunesses Musicales de France et l'Orchestre Jean-François Paillard. Ce sera suivi aussi de l'Antienne après le chant des complis monastiques. Vous avez évoqué le monastère de Rougemont. Je sais que vous aimez particulièrement ce côté, j'allais dire un peu introspectif, méditatif.
Contemplatif.
Contemplatif. Alors, on entendra Sous ton patronage, Mère de Dieu et Vierge, chantée par le chœur des moines de l'abbaye de Chevretogne, un monastère bénédictin de rite byzantin et latin situé dans la province de Namur, en Belgique, que vous connaissez bien d'ailleurs.
Absolument. J'ai même fait, dans ma jeunesse, une retraite d'une fin de semaine là avec mes parents et d'autres membres de la communauté paroissiale à laquelle j'appartenais à cette époque-là.
Une note additionnelle, ce monastère présente la particularité de comporter deux églises.
Oui.
Une église pour la liturgie du rite romain, c'est exact?
Absolument.
Dédiée au Christ Saint-Sauveur et l'autre pour les cérémonies en rite byzantin dédiées à l'exaltation de la Sainte Croix.
Exactement.
Les moines de cette abbaye sont devenus d'ailleurs une référence en matière de chant liturgique orthodoxe russe et grec, dont Grégoire Bainbridge dirige le chœur. Cessons de parler et écoutons-le. Avec nous, Monseigneur Christian Renambourg, nouvel évêque de Saint-Hyacinthe depuis l'an dernier. Ce qu'on vient d'entendre est vraiment très beau. Je sais que particulièrement tout ce qui est contemplatif, au plan du chant, au plan même du rituel, vous rejoint beaucoup.
Oui, moi je peux le dire, dans ma jeunesse, c'était une grande joie avec mes amis de jeunesse d'ailleurs, d'aller de temps en temps passer des fins de semaine dans les abbayes bénédictines ou trappistes même de la Belgique. Je peux nommer la magnifique abbaye d'Orval dans les Ardennes, dans la province du Luxembourg, ou encore l'abbaye de Maretsou qui est très réputée pour le travail sur la Bible. Et c'est vrai qu'il y a une dimension musicale intéressante dans la liturgie monastique. Quand j'ai travaillé en France plus tard, j'ai eu la joie d'aller à Tamiers, par exemple, qui là aussi, ils ont développé toute une beauté liturgique. Alors, celle de Chevetang qu'on vient d'entendre, ça, c'est vraiment tout le lien avec l'Orient, entre l'Orient et l'Occident. Moi, je trouve ça fabuleux au niveau écuménisme. D'ailleurs, c'est un des monastères qui travaille beaucoup à l'unité des chrétiens, Chevetang.
On va faire un petit voyage en Belgique.
Ça se peut, oui. Profitons-en.
Bien oui. On va se retrouver au sein de la cathédrale qui porte quel nom précisément, cathédrale?
Saint-Michel et Sainte-Gudule.
Et qui était Sainte-Gudule?
Alors, je ne la connais pas, je ne connais pas son histoire. Je sais qu'il fut un temps où on disait qu'elle n'avait jamais existé, mais le nom est revenu en usage. Alors, voilà, je pense que Saint-Michel, c'est notre saint patron de la capitale, et Sainte-Gudule, c'est probablement une bonne personne.
Et il y a dans cette cathédrale des orgues magnifiques, Granzig.
Oui.
Et qui comporte 4300 tuyaux, plusieurs jeux, 63 jeux précisément.
Et accroché, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais c'est accroché dans la nef centrale. C'est impressionnant quand on est dans la cathédrale, qu'on voit ces orgues-là et qu'on sait que l'organiste joue en haut, puis il est suspendu dans le vide, si on peut dire.
Ah oui. Et l'organiste, c'est Xavier Depré, qui est le titulaire de ces orgues, et qui a aussi composé une magnifique pièce, le credo que nous allons entendre alors qu'il jouait avec le chœur de la cathédrale et les fidèles présents lors de la messe des artistes célébrée en 2016.
Thank you.
ce qu'on vient d'entendre, ça me rappelle encore quand j'étais jeune et que j'allais dans la cathédrale de Bruxelles le dimanche de temps en temps, vers l'heure du midi, parce qu'il y avait la messe des artistes, une fois par mois, si ma mémoire est bonne, durant peut-être 7-8 mois de l'année. Et c'était une belle opportunité d'inviter les artistes à venir proclamer la parole de Dieu, à venir interpréter des pièces musicales avec leur instrument favori, ou à des chœurs, ou plus ou moins grands, à venir exprimer par le chant la beauté de la liturgie, mais avec leur art. Alors c'était, je trouvais ça aussi une belle chose, on parlait de contemplation tout à l'heure, là on unit tout l'art aussi à la liturgie, à la vie de la foi, à la vie de l'Église.
Est-ce que le lieu physique, justement, quand vous étiez jeune, le fait de vous retrouver au sein d'une cathédrale de ce genre, immense, qui incite à la prière, a pu influencer votre parcours?
Sûrement que c'est un des points, la beauté du bâtiment. Alors la cathédrale Saint-Michel est particulièrement très belle, il est vrai, mais la même chose quand on parlait tout à l'heure des monastères, les églises abbatiales, ça porte à la prière. Je dis souvent que quand j'entrais là-dedans, je sentais la prière.
Ah oui.
Je sais pas si c'est une bonne expression, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire.
Absolument.
Et ça, c'est sûr que ça vient me rejoindre personnellement, toujours encore maintenant.
Ce sont des lieux inspirants.
Voilà, c'est ça. C'est ça qui me touchait beaucoup dans ma jeunesse et qui m'a certainement accompagné. C'est sûr qu'il y a d'autres choses qui m'ont accompagné au niveau de ma vocation, de ma foi. C'est par exemple le fait d'être né dans une famille chrétienne. Très impliqué avec papa et maman. Quand je pense, ma mère qui a 94 ans accomplis actuellement, qui est dans sa 95e année, elle me disait qu'à l'âge de 18 ans, faut le faire à son époque, elle était maman catéchiste en paroisse bénévole.
Somme de David.
À l'âge de 18 ans, et elle en a 94.
Incroyable.
C'est incroyable. Et c'est dire, tu sais, quand on parle de la place aussi des laïcs en église, déjà dans sa génération, il y avait cette possibilité-là dans sa paroisse à elle.
Seigneur, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Seigneur, tu la connais entièrement. Connais
vient d'entendre, c'est le psaume 138, dit aussi 139, dépendant de la traduction, c'est exact.
Et c'est ça, 138, 139 en hébreu, oui.
Et c'était les jeunes de la Fondation d'Auteuil. Juste un mot sur cette fondation qui se consacre à l'insertion des jeunes en difficulté sociale, qui a été créée en 1866. Mais tout de même, aujourd'hui, elle accompagne des familles dans le cadre d'une démarche préventive et on dit qu'elle accueille plus de 30 000 jeunes en France. La Fondation accompagne aussi plus de 20 000 jeunes et familles dans plus de 50 pays. Ce qui est intéressant, c'est aussi la lecture de ce qu'on vient d'entendre, le fameux psaume, qui pour vous, et j'ai eu l'occasion de vous entendre en conférence, insister sur certains versets de ce oui. psaume, qui pour vous est comme une, j'allais dire presque un mode d'action. Ça résume bien ce que vous êtes.
Je dirais d'abord les tout premiers versets du psaume qui disent « Tu me scrutes, Seigneur, tu sais quand je m'assois, quand je me lève, de très loin tu pénètres mes pensées, etc. » Ce qui me rejoint beaucoup dans ces versets-là, c'est l'acte de déposition de ma vie dans le cœur de Dieu. Et je dis « Seigneur, tu sais mieux que moi-même, en fait, le chemin que je dois suivre. » Ce que je dois vivre pour accomplir les talents que tu m'as donnés, avec les fragilités bienheureuses que j'ai.
Grâce et notre à Dieu. Liberté.
Et il y a toute ma liberté qui est là-dedans. Et alors, il y a le fameux verset 14 dont vous avez entendu parler lors de ma conférence dont vous parliez tout à l'heure. Ça, c'est sûr. Je le cite souvent. Pourquoi je le cite souvent? Parce que j'ai remarqué dans mon ministère de prêtre depuis 22 ans, 23 ans maintenant, parfois des gens qui ont un regard un peu sombre sur eux-mêmes, qui manquent de confiance peut-être en eux, etc. Et alors, je me dis, mais dans le psaume 138, le verset 14, il me semble que c'est agréable à l'entendre et je le redis encore pour tous ceux qui parfois se disent mais qui suis-je ? Moi aussi je me suis déjà dit qui suis-je Seigneur pour etc. Et alors ce verset est fabuleux. Le psalmiste dit je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Mais quand on regarde bien chaque être humain en profondeur dans le cœur, chaque être humain est unique exceptionnel des dons, des talents, des charismes, des forces qu'elle a. Alors, étonnantes sont tes œuvres. Ben oui, c'est vraiment très étonnant tout ce qu'on peut vivre dans une vie, chacun. Et toute mon âme le sait. C'est l'acte de déposition, c'est oui. ça. C'est cette confiance dans la présence de Dieu, le souffle de l'Esprit Saint qui me guide, qui m'inspire, qui m'éclaire, qui me relève quand je suis à terre.
Et tout ça sous le regard de celui qui nous aime.
Eh oui, c'est la beauté de ce psaume. Alors je recommande à tout le monde de le dire souvent, de le prier souvent.
À celui qui nous aime, qui a
Thank you.